10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour, évidemment, heureux de démarrer cette semaine avec vous. Mais également aussi de vous accueillir sur l'antenne au 0153 48 3000. Vous le savez, vous êtes toujours ici prioritaire. Et vous nous appelez, vous commentez l'actualité ici même sans aucun problème et en toute liberté d'expression. Au sommaire de cette émission, alors c'est parti. Nous reviendrons sur les événements qui se sont déroulés à la Courneuve. À la Courneuve, où la soirée, évidemment, entre mortier d'artifice, cocktail Molotov, et puis échange entre d'un côté le commissariat et de l'autre les jeunes de la Courneuve. Nous en parlerons, on reviendra sur cet événement et tenter de comprendre ce qui s'est déroulé. Vladimir Poutine qui a été réélu pour la cinquième fois, mais surtout réélu pour quoi faire? Réélu pour évidemment poursuivre la guerre en Ukraine, et puis d'autres sujets aussi, hein, c'est la France avec notamment cette préoccupation menaçante. La guerre en Ukraine avec les propos de Jean-Luc Mélenchon. Vladimir Poutine fait ce qu'il croit être son devoir. On reviendra sur cette bataille. Justement, d'un côté la France insoumise, de l'autre évidemment le reste du monde. Nous reviendrons sur ça à peine. Et puis, si on a un peu de temps, on reviendra aussi, vous savez, sur un événement. C'est la toute nouvelle, oui c'est une nouvelle hein, pour les parents divorcés. Le Premier ministre envisage une semaine de 4 jours. Alors, est-ce que ça risque pas de provoquer un déséquilibre vis-à-vis des autres? Nous en parlerons, voilà. Et puis le Quoi de neuf, c'est avec Michel Taube tout à l'heure, à 9h50 précisément, ou plutôt à 10h50, tout à l'heure, en direct. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les informés, le face-à-face.
Beaucoup de retard ce matin, on a Jimmy Dalidou qui est coincé dans les transports en commun, il paraît que c'est pas fameux, mais bon, on a quand même, évidemment, Nadir Kaya qui est avec nous. Bonjour Nadir Kaya.
Bonjour Adil, bonjour à tous.
Ça va?
Ça va très bien, mis à part la circulation, mais bon, on est habitué de cette situation.
Bon, vous êtes le président de Banlieue Plus. Face à vous, c'est l'élu de Villejuif. Il est humaniste, il est pacifiste, il est aussi artiste. C'est Guillaume Dessouy. Bonjour Guillaume Dessouy.
Bonjour Adil, bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Ravi d'être là avec vous ce matin.
Eh bien messieurs, vous savez quoi, nous allons démarrer tout de suite, y compris aux auditeurs, on vous accueille au 01 53 48 3000, n'hésitez pas pour réagir. Alors j'ai vu les images, vous savez, à la Courneuve, c'était quand même assez chaud hein, ces émeutes à la Courneuve, comme à Marseille d'ailleurs, avec cette cocktail Molotov, mortier sur les policiers, on a bien vu, alors ils sont très prudents les policiers, et Philippe Poutou, alors ce tweet qui, je dois dire, m'a pas surpris, mais bon, quand on connaît Philippe Poutou, joli feu d'artifice ce soir dans le commissariat devant la Courneuve, soutien à une colère légitime après qu'un jeune ait encore été tué par la police. Suite logique des révoltes de juillet 2023. Tout s'aggrave, racisme, discrimination, pauvreté, mal logement, violence, répressive. A-t-il raison, Nadir Kaya? Et je veux vous entendre au 01 53 48 3000.
Sur ce tweet?
Oui.
Évidemment que non. Surtout de la part d'un homme politique. Pourtant, j'adhère souvent à certains de ses propos, mais celui-ci est pas acceptable parce que concernant l'attaque du commissariat de la Courneuve, je comprends ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire une soif de justice par rapport aux événements d'Aubervilliers et la mort tragique de ce jeune de 19 ans. Mais on demande pas la justice de cette façon. Il y a plusieurs façons de demander la justice, et celle-ci n'est pas la bonne méthode. Et quelque part, à travers ce tweet, c'est encourager cette façon de demander la justice par la violence. Et cette violence-là, moi,
c'est
je
comme
la condamne.
Ça que j'ai ressenti, moi. Alors, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mince, Philippe
Poutou,
oui, mais
il y a un peu comme les leaders de LFI, si vous voulez. Ils cherchent des voix dans les quartiers populaires parce que il y a que là où ils peuvent en avoir. Et malheureusement, ils se jouent de cette situation tragique qui nous rappelle que
c'est terrible ce que vous dites.
Bah oui, mais c'est comme ça que font les hommes politiques. Ils ont un électorat et ils le draguent régulièrement, ils l'alimentent régulièrement à travers des positions qui peuvent les intéresser ou pas. Et puis malheureusement, c'est comme ça que la politique se pratique en France. Mais bon, on voit bien que le résultat, c'est que, comme il le dit en plus dans son tweet, que la pauvreté est de plus en plus présente, que la misère aussi, que les violences aussi. Et ce type de tweet, c'est pas un tweet intelligent. De la part d'un responsable politique.
Est-ce que vous partagez ça, Guillaume Dessouy, quand on entend le tweet de Philippe Poutou, personnalité politique qu'on connaît, hein, évidemment. En gros, il encourage les jeunes d'aller tout casser, hein. C'est ça?
Bon, moi, je crois.
C'est vrai, quand on le lit, c'est un peu ça.
Moi, je crois que la plupart des politiques, et notamment de partis qui sont entre guillemets minoritaires et radicales comme le NPA, ils parlent avec sincérité. Donc Philippe Poutou, il dit quelque chose qui correspond à la France qu'il pratique, aux tensions qu'il ressent.
Vous avez entendu Nadir Kaes, ce qu'il disait à l'instant. Il disait que ce tweet cherchait justement à aller provoquer du clientélisme, c'est-à-dire on arrive à une période électorale.
Bien sûr,
là,
on peut dire qu'il y a des tensions au sein du NPA, que le parti est en grande difficulté. Certains disent qu'il implose et en prenant un parti pris dans son tweet très fort, il cherche peut-être à réveiller son entourage. Mais dire que ça va à contrario de ses idées, c'est non. Ça va dans le sens de ce qu'il pense, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent depuis 30 ans qu'il est militant. C'est une certitude. Et dire que ça n'arrange rien.
Oui, mais est-ce que c'est un politique qui doit parler comme ça?
Il n'est pas ministre de l'Intérieur.
Comme disait Nadir Kaya tout à l'heure, c'est pas le rôle du politique d'attiser justement la haine sur la haine. Nadir Kaya. Bah,
non, puis moi, si je peux. Au NPA, ils sont pas pacifistes. Hein, ils l'ont jamais été. Ils sont pour la tension sociale et il pense que la violence a quelque chose de salvateur. C'est ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Soyons clairs. Je m'inscris complètement en faux face à cette espèce d'esprit de surenchère. Pour autant, c'est la réalité du NPA.
Ouais. Nadir Kaya.
Je pense, je connais pas réellement ce parti, même si parfois j'entends certaines déclarations de leur leader auquel j'adhère notamment sur la cause palestinienne, mais le reste après ils sont comme tous les partis politiques, tous surfent sur ces violences, sur ces faits divers. Dans les extrêmes et l'extrême droite aussi, quand on voit comment ils surréagissent sans être capables d'avoir de vraies propositions.
On a Jordan Bardella, je vous le dis puisque vous faites référence sur Twitter, sur X pardon, le candidat RN donc aux élections européennes, Jordan Bardella réagit aux violences faisant part de son soutien aux policiers de la Courneuve. Pour nous, il n'y aura jamais d'excuses ou de circonstances atténuantes au fait de s'en prendre à nos forces de l'ordre. La seule réponse, la fermeté totale. Voilà, vous l'avez sa réponse.
Oui,
puisque vous
l'avez réclamé. C'est une réponse.
Bonjour Jimmy qui vient d'arriver sur le plateau.
C'est une réponse d'extrême droite qui n'aboutit à rien parce que ce sont des gens qui vivent de la violence de la société et de la misère de certains Français. Un homme politique en responsabilité ou qui souhaite avoir les plus hautes responsabilités en France doit apporter des solutions. Malheureusement, en France, on n'a pas de solution. Et la solution par rapport à ces événements, il faut en venir toujours pareil parce que on est toujours à réagir sur les conséquences, mais pas sur les causes. Les causes de cette situation.
Vous entendez Là, on a de nouvelles émeutes qui ont éclaté à la Courneuve, d'accord? Décès d'un jeune.
C'est
le jeune Wanis.
Wanis, 19 ans.
Ouais, 19 ans. C'est terrible.
Mais c'est un de plus, malheureusement.
C'est
parce
terrible.
Que le vrai problème dans tout ça, c'est quoi? Si on veut régler le problème dans sa globalité.
Un jeune, de nouveau mort.
C'est les
méthodes
d'interpellation. C'est les méthodes d'interpellation de la police française qui perdurent dans nos banlieues. Parce que la police a des comportements en banlieue qu'elle n'a pas ailleurs. Après, évidemment qu'il y a des problèmes en banlieue, des violences, ça je le nie pas, je le condamne également. Mais à un moment donné, il faut regarder la façon dont on interpelle ces jeunes. Et quand vous avez vu les images, même si la voiture de la police se déporte pour éviter une autre voiture, on voit bien qu'elle arrive à toute allure, il n'y a pas de gyrophare. Donc déjà, c'est toujours pareil, parce que le problème, et en banlieue, on le connaît, après les politiques, ils réagissent comme ça, les médias aussi, ils vont pas dans le fond. Nous, le fond, on le connaît malheureusement. C'est un énième jeune qui meurt de façon tragique. Si on remet pas en cause l'institution policière en France, on continuera. Et puis ça fait 40 ans que ça dure, que des jeunes comme ça régulièrement meurent entre les mains de la police de façon anormale. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de justice au bout de tout ça. Les affaires, on les oublie. Les policiers sont très rarement inquiétés. Et donc ça aboutit à ce sentiment d'injustice permanent dans les banlieues. Donc dès l'instant où vous aurez toujours un jeune qui se fera tuer ou qui se fera toucher comme ça de façon anormale par des policiers, il y aura ce type de réaction. Moi je le déplore parce qu'il y a d'autres façons de demander la justice. On peut attaquer les policiers en justice comme certains le font, comité, association.
Est-ce que c'est pas le ras-le-bol là? C'est peut-être ça aussi.
Oui, mais c'est pas parce qu'il y a le ras-le-bol qu'il faut amener une certaine violence.
Est-ce qu'on peut craindre là les mêmes émeutes qu'avec Naël?
Moi j'espère pas, mais le problème c'est que les médias et les politiques s'en amusent de cette situation. Parce qu'ils surfent sur ces faits, comme j'ai dit, sans aller en profondeur sur les causes de cette situation. Comme les causes qui nous touchent depuis longtemps dans la société française par rapport aux discriminations, par rapport aux violences, par rapport à la misère. On est toujours à surfer sur les conséquences, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver les solutions. C'est pas qu'on n'arrive pas à trouver les solutions, les solutions ne les intéressent pas.
Jimmy Dalidou, je vais juste l'accueillir, Jimmy Dalidou, ce qui vient d'arriver, coincé dans les... C'est très rare, hein, d'ailleurs, que vous représentant de la CGT.
Non, mais écoutez, concernant
la Cour, on avait évidemment et cette terrible... de nouvelles émeutes ont éclaté après la mort, le décès de Wanis, 18 ans.
Bah, vous savez, il y a plusieurs niveaux de révolte. Le premier niveau, c'est l'émeute. Deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le mouvement spontané. Le troisième niveau, c'est l'insurrection. Et en général, le dénominateur commun des trois niveaux, des trois degrés de mise en exergue de la colère populaire, c'est le degré de conscience, les inégalités sociales, la répression tous azimuts d'une police qui est devenue malheureusement une milice du capital plus qu'un outil, de protection des citoyens. Donc à un moment, il faut se poser les bonnes questions.
N'allons pas comparer la police à une milice du capitalisme.
Non, mais vous savez, n'exagérons
pas.
En fait, les circonstances forment la conscience. Si vous avez une conscience qui est en colère, elle résulte de circonstances malsaines, nauséabondes. Si vous changez les circonstances, la conscience sera claire, elle sera posée, elle sera tranquille. Problème, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut aussi que les policiers fassent leur boulot dans ce pays. Parce que ils ont bien compris qu'il y a deux choses. Première chose, il y a une montée de certaines idées, notamment des idées d'extrême droite, au sein de la police, et ça, c'est inadmissible, c'est irresponsable, et le gouvernement, on a l'impression que ça l'arrange un petit peu, parce qu'il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là. Le policier, normalement, il doit rester neutre. Il doit être, lorsqu'il est devant un citoyen, quel que soit son âge, il doit réagir de la même manière, d'une manière neutre, politiquement parlant, avec des process, normalement des process qu'on lui a inculqués, normalement, dans des écoles de police, logiquement, et il devrait... ne devrait pas être absorbé, imbibé par une idéologie quelconque. Maintenant, s'il n'est pas capable de le mettre en application, qu'il fasse boulanger, qu'il fasse pas policier. Vous voyez ? Donc moi, ce qui est dommage, c'est que ce qu'on se constate, vous savez, moi j'ai grandi dans la cité des 3000, on est sous bois, vous voyez ? Donc moi les émeutes, j'ouvrais ma fenêtre de ma chambre, je regardais les émeutes, c'était comme un cinéma, et quand je m'ennuyais, je descendais. Vous voyez, ce que je constate, c'est que moi je voyais des policiers qui, quand ils s'ennuyaient un petit peu, ils faisaient des descentes dans les quartiers, et puis ils tirent à coups de LBD, tu sais, vous savez, un petit peu comme on tire sur des lapins. Tu sais, c'est les amuser, tu vois, ils s'entraînaient. Donc ça, est-ce que c'est le boulot d'un policier ? Non. Ça, c'est pas le boulot d'un policier et c'est pas ce qu'on demande à un policier. Ensuite, il y a le jeu des médias mainstream qui profitent de ça, puisqu'ils veulent.
Chacun en prend pour son grade quand on vous
écoute
parler.
Oui, non, écoutez, les médias mainstream sont totalement subordonnés à un État qui est lui-même subordonné aux directives.
En gros, les médias sont responsables.
Ce que veut dire Jimmy, c'est qu'il y a un effet de surenchère et que chacun, de façon assez irresponsable, il va de sa petite graine. Moi, je suis pas d'accord pour dire que les politiques sont tous sur cette grille de lecture. Nous, à Villejuif, la première chose qu'on a fait en arrivant, c'est revoir le carnet le carnet des charges de la police municipale et la désarmer. Parce que on veut que la police ait la police municipale, en l'occurrence, ait une mission de médiation beaucoup plus forte et qu'elle soit en capacité d'aller vers les jeunes, mais pas que les jeunes, vers la population dans son entier, sans alimenter une tension, une peur que Monsieur Sarkozy a instauré lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et qu'il a décidé d'enlever des policiers et de les suréquiper, ce qui a donné un effet extrêmement délétère. Ouais. Depuis lors, la police est considérée comme un ennemi de l'intérieur par toute une part de la population qui légitimement a peur. Parce que moi, je discute avec les policiers. Et les policiers, vous savez ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, le matin, quand on s'équipe, au fur et à mesure qu'on met nos couches de protection, on se dit que ce soir, on rentrera peut-être pas. Et ouais, les policiers vivent dans la peur et vivent avec une profession qui n'a plus rien à voir avec leur charge d'origine.
Le problème qui se pose, c'est que effectivement, les policiers, tu fais l'allusion aux différentes couches qu'ils mettent sur le dos entre un passoir. Mais il faudrait d'abord qu'ils enlèvent les différentes couches idéologiques, nos amours et malsaines, dont ils s'imbibent lorsqu'ils prennent leur service. Non, je reviendrai quand même. Mettons en avant le rôle des médias aussi, qui ont très bien compris. compris que dans ce pays, est-ce que je peux parler tout à l'heure, est-ce que je peux pas finir ce que je dis, parce que dans ce pays il y a une montée du fascisme, du fascisme dans ce pays, et les médias mainstream ont très bien compris que lorsqu'il y a un petit noir ou un petit arabe qui fait une petite bêtise, comme tous les jeunes font des bêtises, et vous avez tous les médias qui sont braqués sur lui parce que ça les arrange bien. C'est ça le problème. Et les policiers l'ont bien compris qu'ils étaient couverts sur le plan médiatique.
Évidemment, c'est pas parce qu'il faut rappeler que dans la police, beaucoup de jeunes et de moins jeunes sont issus des quartiers populaires, de plus en plus. Donc à partir de là, on ne peut pas généraliser. Mais le souci, c'est quand vous créez une injustice.
Parce que si tu viens d'un quartier populaire, tu es forcément moralement correct. C'est ça.
Non, j'ai pas fini, mais c'est pour déjà.
C'est très grave ce que tu viens de dire.
Non, c'est déjà rappelé dans la police.
Si tu viens de la banlieue, tu es moralement correct. Tu es moralement cohérent. Tu es moralement. Ta morale est incompressible sous prétexte que tu viens de la banlieue.
Je peux être comme n'importe quel.
Je peux être comme n'importe quelle personne.
C'est pas parce que je viens de banlieue que je serai soit un délinquant ou soit une personne parfaite. Je reste d'abord un individu avant tout. Je rappelle simplement que dans la police, il y a des gens qui viennent des quartiers populaires. Pas simplement pour excuser la situation, mais parce que vous avez aussi des gens qui adhèrent à la police et qui sont issus des quartiers populaires, et malheureusement qui continuent aussi à adopter ces méthodes qui sont inacceptables dans la police. Donc ça, il faut le dénoncer. C'est ça le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'institution policière, elle se permet d'avoir un laxisme vis-à-vis de certains comportements de certains policiers, et c'est ça qu'il faut traquer.
Je dois lancer la pause, s'il vous plaît, pardonnez-moi de vous interrompre. 01 53 48 3000, si vous souhaitez intervenir et nous faire part de votre opinion, n'hésitez pas, même y compris lorsque vous avez des témoignages. 01 53 48 3000. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après. Jimmy Dalidou, je vous ai pas fait réagir justement sur le tweet de Philippe Poutou. À tout de suite, ne bougez pas.
Tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec Nadir Kaya, Jimmy Dalidou et enfin Guillaume Dessouy. Messieurs, nous allons 01 53 48 3000. Je vous attends aussi pour intervenir sur ce qui se déroule, les événements qui se déroulent après donc la mort d'un jeune de 18 ans, Yohannis, et les émeutes qui se sont déroulées à la Courneuve comme à Marseille d'ailleurs. Je voudrais juste donner la parole à Jimmy Dalidou, parce que je ne l'ai pas entendu sur la réaction. Vous savez, Philippe Poutou a réagi sur Twitter, sur X, pardon. Joli feu d'artifice ce soir devant le commissariat de la Courneuve, soutient une colère légitime après qu'un jeune ait encore été tué par la police. Suite logique des révoltes de juillet 23, tout s'aggrave, racisme, discrimination, pauvreté, mal logement, violence répressive. Alors, est-ce que c'est responsable venant
Écoutez, sur le personnage en lui-même, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Monsieur Poutou. Je pense qu'il a gardé une ligne de principe qui est importante. Et malheureusement, il le dit à sa manière, avec ses mots à lui, dans une forme parfois qui ne plaît pas forcément à certains costards en cravate. Mais en tout cas, la ligne est claire, c'est que vous avez une montée de la fascisation dans ce pays. Je parle pas de fascisme. Je parle bien de fascisation. C'est quoi la fascisation ?
Est-ce que c'est totalement responsable
parce que vous savez, on peut pas continuer sur cette ligne qui consiste à dire, à partir du moment où vous touchez un citoyen qui est d'origine juive, l'attaque est forcément antisémite et effectivement elle doit être condamnée. Toutes les attaques doivent être condamnées. Et lorsque vous foncez sur un jeune noir ou un jeune arabe, on constate qu'il y a. Et je vais vous dire franchement, beaucoup ne veulent pas aller sur ce terrain.
Vous êtes allé sur un terrain.
Donc moi je vais y aller, je vais en parler, je vais lancer le débat, moi ça me dérange pas du tout. Ils veulent pas y aller, moi je vais y aller. Non, quand on fonce sur un noir, un arabe, le traitement n'est pas du tout le même. Moi j'aimerais bien savoir.
Ne soyez pas dans l'émotion.
Mais c'est pas l'émotionnel. C'est pas l'émotionnel. Il y a une montée du racisme dans ce pays. Moi ça arrange les affaires de la classe politique.
Jimmy, d'accord. Et effectivement, ce que tu dénonces a une part de vrai. On va pas se le cacher. Par contre, il faut sortir de cet imaginaire du conflit. La violence n'est pas salvatrice. La violence ne résout rien. Quand Nadir dit qu'il faut faire des manifestations à 1000 devant les commissariats et tenir la place, là, on est dans le vrai. Nous, dans les mouvements pacifistes et notamment les mouvements violents, on rappelle que les manifestations non violentes,
tu vis dans le monde des bisounours parce que la violence fait partie de la lutte des classes.
Vivrait dans le monde des bisounours, c'est un élu.
Justement, il devrait le savoir, il devrait pas tenir ce discours-là parce que et en plus il le sait. La violence de classe, elle est réelle, elle existe.
S'il te plaît,
s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît,
Est-ce que lors des gilets jaunes, ce n'a pas été une violence de classe? Si, c'est ce qu'on appelle une violence de classe. Alors je comprends que ta position soit une position pacifiste. Moi aussi, j'aimerais bien que la paix mondiale intergalactique puisse exister.
Mais c'est son rôle.
Malheureusement, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé.
Arrête avec ce mensonge. Arrête avec cette espèce de montée en gamme de
c'est une analyse factuelle de la réalité objective.
Des tensions sociales jusqu'à l'insurrection. C'est pas ce que j'ai après, à dire moi. Et moi je vais dire ce que je souhaite et après tu reprendras ton fil si tu veux. Mais pour moi c'est de la démence. Donc en ce qui me concerne, je tiens à rappeler que les véritables avancées sociales, elles arrivent avec la non-violence et la mobilisation sur le long terme.
Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé.
Les situations de violence et les situations insurrectionnelles n'ont jamais fait que faire régresser les droits dans nos pays. Et ce que tu racontes sur la capacité révolutionnaire, c'est une vaste fumisterie. Ce dont nous avons besoin.
S'il te plaît. De quelle organisation tu veux parler? Tu sais très bien que ça fait 40 ans que la classe ouvrière et les couches populaires n'ont plus d'organisation politique.
Il n'y a que toi dans ta tête.
Non mais je suis en train de lancer une idée qui consiste à faire croire aux gens que la violence de classe n'existe pas. Dans quel monde tu vis?
Non, je dis pas que la violence de classe n'existe pas. Je dis que les révolutions violentes ne font qu'accroître les moyens de la violence de classe.
Il reconnaît qu'elle existe, il sait.
Et je dis que la seule façon de mettre fin à la violence de classe, c'est de faire valoir le nombre de
traîtrises de certains partis politiques aussi.
Nadir Kaya.
Et de faire valoir, si tu permets, Nadir, je termine quand même, parce que Jimmy me prend mon vent à chaque fois sans frein. Et
les sociopacifistes, c'est tous les mêmes. Ils sont tous victimes. Ça, c'est incroyable, ça. Ils sont dans la négation de la réalité objective et ensuite ils sont victimes. Ça, c'est bien du sociopacifisme.
Laissez-le parler. On peut s'écouter, s'il vous plaît.
L'imaginaire qui consiste à se fédérer les uns les autres, à faire des solidarités de quartier, c'est ça qui change la vraie vie. Ce que tu dis, Jimmy, c'est l'intérêt de ta boutique.
C'est un intérêt de classe, monsieur. Parce que moi, ce que je constate, lorsque la classe ouvrière est martyrisée depuis 40 ans, il faut se bouger le cul, c'est ça que je dis.
Jimmy Dalidou, vous avez aussi le sens du respect ou pas?
Bien sûr, il faut tous s'écouter. Bien sûr.
Lorsqu'évidemment,
même quand on est insurrectionnaliste, il faut l'écouter aussi. Ça marche pas que dans un sens.
Allez-y, Nadir.
Que les choses soient claires. Non, moi je voudrais juste te dire une chose. C'est vrai que quand on parle de violence, la plupart des gens la condamnent. Il faut la condamner effectivement, mais historiquement, la Révolution française, c'est aussi une violence. La lutte des classes, elle a toujours existé, elle existera toujours. Après, la violence, elle est à différents niveaux, mais elle existera toujours parce que les riches protégeront toujours leurs richesses et les pauvres chercheront toujours à se sortir de cette pauvreté. Ça, c'est une réalité qui est humaine. Donc là, on ne pourra pas changer le monde. Après, c'est toujours pareil. C'est la façon dont on veut changer le monde. Est-ce qu'on le change réellement par la violence ou par de l'intelligence? En général, la violence, si elle aboutit à de l'intelligence comme la Révolution française, parce qu'il y a eu de la violence, un changement de régime de la part des Français qui ne supportaient plus le fait que le roi soit le chef de tout, de la politique comme de toute la partie spirituelle, et donc on est arrivé à une certaine démocratie. Mais la démocratie n'empêche pas aussi cette violence sociale. On le voit aussi, tu le disais, Adil, en début d'émission, en rappelant le tweet de Monsieur Poutou, la pauvreté, c'est 10 millions de Français aujourd'hui. Donc elle s'accroît parce que vous avez des riches qui sont de plus en plus riches, même s'ils sont très minoritaires, mais bizarrement, cette minorité influe sur le destin des autres. Et ça, c'est de la violence aussi. C'est une forme de violence qu'il faut aussi constater.
Oui, non, mais sur l'organisation, je suis d'accord avec Nadir quand tu dis qu'effectivement, il faut... Moi aussi, j'aimerais bien qu'il y aurait 10 000 mecs devant un commissariat et qu'ils posent une revendication. Mais vous savez, encore une fois, pour poser une revendication, et je vais vous dire, en 15 ans de militantisme, je
pas simplement des revendications, si non, je peux mais, permettre, attaquer si en
tu,
justice.
Quand tu poses une revendication
en France,
il faut être organisé.
Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement?
Bien sûr qu'il y a un risque d'embrasement.
Pourquoi il y a un risque d'embrasement? Le jeune Naël.
Mais bien sûr, parce que déjà, à la base, il n'y a plus beaucoup d'espoir pour les jeunes de ce pays. Lorsqu'on est actuellement, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont du boulot? Ils ont pas de boulot. Et est-ce qu'ils ont un salaire? Lorsque c'est un salaire de merde. Est-ce que leurs parents vivent bien? La plupart des parents vivent mal. Est-ce qu'ils ont un espoir de devenir chanteur, danseur, artiste pour certains, parce qu'il y a beaucoup d'artistes dans les banlieues? Non, vous en avez un sur 100 qui réussit. Quel espoir on leur donne?
Jimmy, là je te coupe parce que tu peux pas donner cette image là, on l'a entendu pendant des années. Moi je suis pas d'accord avec toi parce qu'en banlieue, il y a des gens qui réussissent leur vie, il y a des gens qui sont très bien.
On a un sur combien?
Mais bien évidemment qu'il y a une partie qui va mal. Mais
il y en a beaucoup qui réussissent.
Moi, à un moment donné,
je veux
bien critiquer le système.
Sur les entrepreneurs, on peut reparler des entrepreneurs en banlieue.
C'est là qu'on entreprend le plus en France.
Il y a combien des TPE, des PME qui sont
mais c'est là qu'on entreprend le plus en France. Il y a un vivier qu'on ne peut pas oublier ou négliger en banlieue. Il y a du positif, il y a des gens qui vont super bien. Il y a de moins en moins de classe ouvrière parce que moi, le premier, on évolue par rapport à nos parents. Pour certains, on arrive à la classe moyenne. Ça aussi, il faut le dire aussi en banlieue. Mais il y a cette réalité qui est là aussi. Il y a des gens qui sont encore dans la misère, qui vivent difficilement. Mais il y a de plus en plus de gens en banlieue qui s'en sortent.
Mais d'où la nécessité de s'organiser politiquement en pensant que la banlieue, c'est la misère absolue. Mais d'où la nécessité de s'organiser politiquement. Et avant, il y a eu quelques années, vous aviez par exemple un PCF qui était fort, puissant, qui avait des véritables bases de principes.
Ouais, mais moi, je ne suis pas du tout pour rentrer dans les partis politiques. Parce que tu l'as dit, ils nous ont trahis.
Mais c'était quoi les années 80?
Tu nous l'as dit. Tu l'as dit justement.
Mais alors, ça veut dire qu'on n'a pas les banlieues.
La gauche a trahi les banlieues, la droite a essayé de récupérer et elle fera pas mieux. Moi, je suis pour une autonomie totale. On a suffisamment de matière grise dans les banlieues pour être autonome, surtout localement, pour créer des listes autonomes citoyennes et prendre le pouvoir. Ça, on peut le faire.
Messieurs, nous allons parler, vous savez quoi, quoique je lance la pause maintenant, comme ça me permet une belle transition. On lance la pause et vous savez quoi, on a encore les images effectivement de cette terrible, de ce qui se déroule à la Courneuve. On va parler de la réélection de Poutine. Ça vous va, messieurs? Poutine plus fort que jamais, sachez-le, et plus menaçant que jamais. Ben voilà, on va en parler. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Dernière ligne droite, 10h40 avec Nadir Kaya qui est président de Banlieue Plus, avec Jimmy Delidou qui est le représentant CGT mais également auteur, l'élu de Villejuif, humaniste, pacifiste, artiste, c'est Guillaume Dessouy. C'est ça, hein.
Tout à fait, Adil.
Allez, la réaction de Poutine. Qu'est-ce qu'il y a, tout en quoi?
En ist.
C'est ça, exactement. Ouais. En ist. Présidentielle en Russie, c'est la cinquième fois. Allez, on va en parler justement. La cinquième fois que Vladimir Poutine se retrouve au pouvoir, autant dire, ça fait depuis un quart de siècle, messieurs, que Vladimir Poutine est au pouvoir. Alors, il a été réélu avec un peu plus de 87% des voix, selon les premiers résultats officiels. Il est arrivé plus fort, plus engagé, plus menaçant. Alors, qui veut prendre la parole?
Moi, je veux bien.
Allez-y.
C'est bien que tu rappelles qu'il est là depuis 25 ans, parce qu'effectivement, je le disais ces dernières semaines, la géopolitique, c'est du temps long. Et Monsieur Poutine, on nous disait il y a 2 ans, il va être renversé par ses généraux, il va mourir, il est malade, ça va être une bagatelle. Ça va être une bagatelle, cette histoire de l'Ukraine, parce qu'il s'est complètement trompé, il pensait gagner en 3 semaines, et vous allez voir, nous, dans 6 mois, on l'aura renversé. On est à 2 ans, il se fait réélire. Le climat en Russie, effectivement, est tendu, extrêmement tendu. L'empreinte de l'Occident à travers les marques, à travers une certaine forme de culture, a complètement disparu. Ils se recentrent sur leur identité et ça pose une autre question. C'est de toute façon, c'est quoi l'après-Poutine? C'est quoi nos relations aujourd'hui avec la Russie? En 2008, la France a adhéré à l'OTAN. Poutine était déjà là, effectivement. C'était une initiative du président Sarkozy, bien malheureuse, mais qui correspondait à des stratégies. Et en 2008, Monsieur Poutine a dit à ses industriels, on va relancer l'industrie de l'armement, parce que l'industrie de l'armement va aider le reste de notre économie. Eh bien, on voit 15 ans plus tard qu'effectivement, il est capable de tenir un effort de guerre, il est capable d'avoir une économie et une population qui le suit. Et on voit à quel point nous, on,
et c'est vrai,
on
vous avez raison, on a tout entendu sur lui.
Et on ne fait que des bêtises. Et quand le président Macron parle de troupes au sol et qu'il revient dessus et qu'il s'en va et qu'il revient, on comprend bien qu'en réalité, c'est des appels du pied à la Pologne. Pologne qui, heureusement, a voté non pas pour des partis extrémistes il y a 6 mois, ouais, mais pour des partis progressistes, ouais, donc qui ne veulent pas y aller.
Mais le pouvoir, il le kiffe. Il est ivre de pouvoir, comment dire.
Et dans ce contexte-là, moi j'entends ce que dit l'animateur juste avant toi dans l'échange que vous avez eu entre deux émissions, hein, Adil. Effectivement, le risque nucléaire, il n'est pas à agiter.
Bah oui, c'est ce qu'il dit. Il promet de ne laisser personne intimider la Russie.
Il fait peur à tout le monde.
Bien sûr, mais
le ton, il a toujours tenu.
Écoutez,
il a toujours tenu.
D'abord, bravo à Monsieur Poutine pour sa réélection. Moi, je me rappellerai. Bravo à lui pour sa réélection. Moi, je me souviendrai.
Il est le seul.
Je me souviendrai surtout.
Mais il n'est pas sur action.
Je me souviendrai surtout du 10 février 2007.
Et je suis pas sûr qu'il soit pour les classes.
Je me souviendrai
pour les classes populaires dans
sa conférence. Messieurs, si vous parlez de respect, que ce soit réciproque, sinon là vous ridiculisez.
Là, je suis dans la réciprocité vis-à-vis de toi. T'as pas arrêté de marcher sur les pieds tout à l'heure. Je t'en fais un peu.
La conférence du 10 février 2007. D'abord avait été un jalon important. Vous savez ce qui s'est passé le 10 février 2007 ? Je demande à nos auditeurs et auditrices de lire les différents textes de la déclaration du 10 février 2007 à Munich concernant la sécurité mondiale. Et vous remarquerez que la plupart des médias mainstream d'ailleurs d'Occident n'ont pas traité le sujet. Pourquoi ? Parce que déjà à l'époque, la Russie avait dit attention parce que le traité qui avait été signé après au moment où il y avait eu la chute de l'Union soviétique, le traité entre M. Baker et M. Gorbatchev, il était clair. Le traité, il était que il y avait dans un contexte mondial changeant, dans un contexte mondial qui fait que le multilatéralisme devenait une priorité et que c'était une séquence nécessaire parce que le dollar tous azimuts n'était plus possible, ce traité a été remis en cause. Le 10 février 2007, la Russie avait dit quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit le Kremlin ? Ils ont dit attention parce que ce traité, il est important pour la sécurité mondiale. Et si les troupes de l'OTAN s'étendent toujours plus vers l'Est, là, la sécurité du peuple russe sera remise en cause. De même que M. Macron a dit que si l'Ukraine tombait, la sécurité du peuple européen serait remise en cause. Il faut accepter que cette logique fonctionne sur les deux plans. Je vous rappellerai qu'après cette conférence de février 2007, il y a eu plusieurs, je crois que c'est plus d'un millier d'appels à l'ONU, de demandes à l'ONU qui ont été effectuées de la part du Kremlin en demandant de stopper l'extension des troupes militarisées de l'OTAN vers l'Est. Ils ont dit que c'était absolument inadmissible que Washington investisse 5 milliards de dollars pour installer en Ukraine un gouvernement américano-compatible. Personne n'a suivi, les médias n'ont pas voulu couvrir l'affaire, et on se retrouve dans cet événement, dans cette séquence dangereuse. Prenons nos responsabilités.
Alors,
un petit peu.
Moi, je ne veux pas aller sur l'aspect géopolitique parce que je n'y connais pas grand-chose, j'ai simplement un regard de citoyen, et en tant que citoyen, moi, ce qui me désole, c'est la posture que M. Macron prend ou a prise depuis quelque temps. C'est-à-dire qu'il est en va-t-en-guerre alors que l'Europe est divisée là-dessus. Mmh. La plupart des pays européens, et notamment l'Allemagne, ne souhaitent pas partir en guerre contre la Russie. Mais lui, parce qu'on parlait juste tout à l'heure de soif de pouvoir, a tellement soif de pouvoir qu'il essaye de prendre le leadership.
Il lui a répondu, Poutine a appelé lui, il lui a répondu.
Guerre.
Il l'a menacé.
Il veut mener une guerre contre la Russie alors qu'il est dans l'incapacité totale.
Il a brandi la menace.
La France n'a pas suffisamment d'armement, n'a pas les moyens. La France est dans une situation sociale aujourd'hui tellement tragique que c'est la priorité des Français. Les Français ne souhaitent pas partir en guerre, contrairement à ce qu'on dit. Ils souhaitent d'abord avoir à manger et pouvoir vivre dignement de leur travail. Et là, quand on voit un petit peu la folie de Monsieur Macron, qui l'empare depuis quelques mois, en pensant être le président de tous les Européens et de partir en guerre contre l'injustice russe, alors que lui-même est déjà injuste face à son peuple depuis des années, je crains pour la France s'il n'y a pas réellement d'opposition face à ce va-t-en-guerre de M. Macron.
C'est pas parce qu'il a eu 87% que c'est forcément truqué. Hein. Parce que dans ce cas-là, il faudrait dire que M. Chirac, quand il a été réélu en 2002 avec 82% des voix, voilà, forcément c'est truqué aussi. Donc attention, parce que c'est pas parce que c'est 87% que c'est truqué. Autrement, la réélection de M. Chirac à 82% peut être annulée parce que c'est truqué.
coup, ce que disait Nadir,
ce n'est pas la même chose.
Avec beaucoup de réalité, c'est-à-dire que la capacité stratégique de la France vis-à-vis de la Russie aujourd'hui, c'est une capacité nucléaire. Et c'est ça qu'il faut absolument entendre et faire stopper. Et c'est pour ça qu'il faut que les populations françaises se mobilisent.
Le coin de neuf, s'il vous plaît.
Les informés. Le quoi de neuf.
Neuf, c'est avec Michel Taube. Bonsoir, Michel Taube.
Bonjour, mon cher Adil.
Comment ça va?
Bonjour,
vous allez bien? Bon, on est en train de se poser la question, effectivement, sur la Russie et la situation qui risque de se dégrader entre la France et la Russie. Effectivement. Michel Taube, éditorialiste, patron de Opinion Internationale. Alors, j'aimerais qu'on revienne, vous savez, sur une caricature. Elle a beaucoup été commentée. Beaucoup, 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 notamment par nos auditeurs. C'est la République s'arrête-t-elle à la porte de Sciences Po? L'actu folie, donc, d'Hector, l'école de la honte, pro-Gaza, etc. Et, alors, moi-même, j'ai pris des cours. On m'a dit oui, comment, etc. Vous osez, avec tout ça, continuer, évidemment, à donner la parole à Michel Taube. Je dis, mais c'est normal, c'est la liberté d'expression. Et puis voilà, c'est comme ça. Et puis, ici, on reçoit toutes les opinions et toutes les sensibilités. Michel Taube, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que je voulais qu'on revienne sur cette information, alors, sur cette caricature.
Tout d'abord, mon cher Adil Farkan, merci de me donner la parole. Et j'apprécie et je respecte beaucoup cette liberté de ton qu'on peut avoir sur Beurre FM, qui pour moi est évidemment très importante et qui est à mon avis le signe d'une société démocratique vivace et vivante. Moi, la seule chose que je veux dire, c'est la chose suivante. C'est quoi une caricature? Ça sert à quoi une caricature? Ce dessin-là, c'est une caricature. Et une caricature, c'est forcément un dessin qui est excessif, c'est forcément un dessin qui secoue. Il ne vise pas à faire du mal, il ne vise pas à s'attaquer à quelqu'un, il vise à tout simplement pointer soit des contradictions, soit des situations que l'on trouve choquantes. Donc, à Sciences Po, il y a eu une réunion pour la Palestine qui a été organisée comme un meeting, un véritable meeting politique qui, à mon avis, allait bien au-delà du rôle de Sciences Po. Mais bon, passons. Mais malheureusement, c'est une réalité. Il y avait, et j'en suis intimement convaincu comme éditorialiste, et j'aimerais tellement avoir tort, il y avait certainement dans cette salle, et il y a parmi des militants qui soi-disant militent pour la Palestine, qui soi-disant militent pour le peuple palestinien, des personnes aussi qui sont pour le Hamas, des personnes aussi qui sont contre l'État d'Israël, pour la destruction de l'État d'Israël. Parce que lorsqu'on dit un État de Palestine jusqu'au Jourdain, cela veut dire qu'on veut rayer de la carte l'État d'Israël. Moi, je suis pour une solution à deux États. Moi, je ne soutiens pas les excès de la politique israélienne lorsqu'il y a des excès. Mais en même temps, je condamne ce qui s'est passé le 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, et bien avant la riposte israélienne, il y a une explosion des faits d'actes antisémites en France et dans le monde, et ça, je le dénonce. Et donc, si vous voulez, faire une telle caricature, ça n'est pas, encore une fois, délivrer un message politique contre les Palestiniens, contre le peuple palestinien, qui a un droit légitime à un État. Donc, effectivement, la caricature, elle peut être excessive, mais c'est par nature, une caricature excessive, et une caricature n'est pas en soi, un discours qui va contre tel ou tel peuple ou telle ou telle population. Donc moi, je maintiens notre droit le plus strict à la caricature. Certains diraient au blasphème. Moi, j'aime pas les blasphèmes, mais c'est une liberté dans une société démocratique. Et je pense que respecter le droit à la caricature, c'est un des principaux critères de maturité d'une société démocratique.
En tout cas, merci d'être revenu évidemment sur cette caricature. Il était important parce qu'elle a été beaucoup commentée sur les réseaux sociaux. Moi-même, d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages, y compris sur cette caricature. Donc, c'est bien, Michel Taube, de revenir et d'en parler ici même,
oui,
dans le Quad 9. Voilà.
Avec grand plaisir, quand on s'exprime, parfois il faut s'expliquer.
Absolument.
On a fait telle ou telle prise de position, mais je veux rassurer les auditeurs de Beurre FM. Opinion Internationale, c'est un média qui est ouvert, qui est pluraliste. On a évidemment des convictions, des convictions d'éditorialisme, mais on est, contrairement à d'autres médias, un média pluraliste et donc ouvert à des points de vue différents.
Merci Michel Taube, à lundi prochain.
Merci à lundi.
Merci. Merci éditorialiste, mais également aussi le patron, le directeur fondateur de Opinion Internationale. Merci messieurs, c'était top. Hein. Jimmy Delidou, il est venu en retard, mais il est
c'est bien. Bah, c'est le métro qui m'a énervé.
C'est ça vous a. Merci Jimmy Delidou.
Merci à vous.
Au plaisir.
Oui, toujours.
Ouais, vous repartez toujours. Au boulot là.
Ce soir. Je suis sur un équipage, je vais visiter un équipage de train ce soir.
C'est la RATP, hein?
Non, moi je suis à SNCF.
Voilà, on se posait la question. C'est la SNCF.
Ah, c'est pas pareil.
Voilà. Merci Nadir Kaya, président de
Bordeaux. Merci Bordicus. À vous.
Ouais. Merci Guillaume de Souy, humaniste pacifiste, mais celui à qui on reproche d'être humaniste. Trop humaniste d'ailleurs.
De nos jours, c'est pas facile et ça reste toujours indispensable.
Merci à Faudil à la réalisation, les programmes continuent.
Essentiel.
Et on se retrouve demain avec autant de plaisir. Surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.